On a un privilège ce matin au 96.9. C'est quoi? C'est de recevoir Steven Guilbeault, directeur principal et cofondateur d'Équiterre. Salut, Steven.
Salut.
Ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, très bien. Très content. Toute l'équipe ce matin. Ben, hier, quand on est rentré en contact avec ton organisation et tout ça, on était très content de savoir que c'était positif que tu étais avec nous ce matin.
Un grand plaisir.
Et tu n'es pas seulement porteur de mauvaises nouvelles. C'est quand même, tu sais. Mais bien souvent, peut-être malgré toi, c'est le cas. Et là, hier, on regardait ça, les changements climatiques risquent de transformer la Terre en fournaise. OK, qu'est-ce qui se passe exactement sur la Terre là, actuellement? Là? On l'a, le réchauffement. Là.
Ben, en fait, en gros, depuis 150 ans, avec la révolution industrielle, on s'est mis à utiliser d'abord du charbon, puis ensuite du pétrole, puis ensuite du gaz naturel. Quand on brûle ces produits-là, on envoie des gaz dans l'atmosphère, puis ces gaz-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils retiennent de plus en plus de chaleur qui arrive du soleil à la surface de la planète. Un peu comme l'auto l'été. Tu sais, ton auto l'été, ben, quand il fait bien chaud, quand il y a bien du soleil, tu rentres dedans, il fait plus chaud dans ton auto que dehors, parce que la chaleur qui rentre dans ton auto, elle ressort pas toute. Il y en a une partie qui reste. C'est un peu ça qui se passe. Et là, plus les années avancent, plus la température moyenne de la planète augmente. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fait tout le temps plus chaud. Ça veut dire qu'en moyenne, il fait de plus en plus chaud. Donc, les 10 années les plus chaudes qu'on a connues depuis qu'on tient des données là-dessus, c'est depuis 2007. Alors les 10 années les plus chaudes, on les a connues dans les 11 dernières années.
Wow.
Puis la plus chaude, c'était 2016. Avant ça, c'était 2015. 2017 est la troisième plus chaude. On n'est pas sûr pour 2018.
Mais là, 2018, ça s'est bien parti.
Oui. Ça risque d'être aussi, peut-être pas la plus chaude, mais l'une des plus chaudes.
Et là, on dit donc que la planète risque d'entrer dans une espèce d'état d'étuve.
Ouais.
Concrètement, là, si on atteint ce point-là, ces degrés-là qui, idéalement, il ne faudrait pas atteindre. Qu'est-ce qui va se passer physiquement sur la planète?
Les scientifiques ne sont pas capables de dire exactement ce qui va arriver, mais ils sont capables de nous donner une idée de ce qui pourrait se passer. Alors, bon, si vous êtes dans un pays qui est proche de l'équateur, on le voit présentement en Europe, en Espagne, Portugal, la Grèce, il fait chaud, là, 42 degrés Celsius au mercure, là, pas avec l'humidité.
Ouais.
Avant l'humidité là,
ça, c'est inhabituel. Il n'y a pas ça. Là.
Non, ils battent des records. Là.
Okay.
En fait, il fait tellement chaud en Europe présentement, dans certaines régions d'Europe, qu'il y a des mécanismes en métal, des clochers qui ont commencé. Le métal a commencé pas à fondre, là, mais
à travailler
tellement il fait chaud. Ouais. Des églises qui sont là depuis des centaines d'années. Là. Alors, c'est des choses qu'on a jamais vues. On voit les feux de forêt en Californie, les feux de forêt en Grèce, mais aussi des feux de forêt,
il y en a quand même à chaque année. Je parle de la Californie, on en voit souvent là, chaque année. Là. Mais peut-être que l'ampleur est plus grande.
Ben, ce qui se passe, c'est qu'il y en a de plus en plus et il brûle des superficies de plus en plus grandes.
Est-ce qu'on peut mettre un temps au moment où ça va devenir complètement invivable? T'sais, moi, j'essaie de penser quand on nous dit là, que bon, la planète Terre va bientôt... ça va être une fournaise et tout ça. Là. Moi, le terme me fait croire que c'est dangereux et qu'on ne sera pas capable de vivre là-dedans. Est-ce qu'il y a un échéancier à ça? On situe à peu près où?
Bien, ce qu'on sait, c'est que depuis 150 ans, la température moyenne de la planète a augmenté d'un degré Celsius. On peut se dire il faut comprendre que c'est pas la météo, hein. c'est pas les changements de température au jour le jour. Un degré Celsius, ça veut dire quoi? Bien, pour vous donner une idée, là, la dernière fois où le Canada était couvert de glace, à la fin de la dernière période de glaciation, la température moyenne de la planète était 4 degrés Celsius de moins qu'aujourd'hui. Là, on a augmenté d'un degré. Puis on se dirige vers une augmentation de 3 degrés au cours des prochaines décennies. Alors, c'est beaucoup.
Okay, oui.
Fait que, tu sais, 4 degrés de moins, tu es dans une ère glaciaire. 3 degrés de plus, il va faire chaud en chien.
Okay.
Il va faire très, très chaud. Puis bon, ça veut... Tu sais, la planète ne deviendra pas invivable pour tout le monde. Mais il y a certains endroits, les humains ne pourront plus vivre là. Il va faire trop chaud, ça va être trop sec.
Mais outre le fait qu'il va faire trop chaud, il n'y a pas aussi le fait qu'à un moment donné, il va y avoir une fonte des glaciers. Il va y avoir comme des inondations. Il y a des endroits qui n'existeront plus, en fait.
Ça a déjà commencé. Mm-hmm. Alors, le niveau de la mer augmente en moyenne et tu as de plus en plus d'inondations ou de tempêtes. Donc, les côtes de différents pays, des petites îles sont très affectées déjà. Par ça, il y a des pays qui commencent déjà à penser dans le Pacifique, des groupes d'îles, là, qui commencent déjà à négocier la relocalisation de leur population. Ils ne pourront plus rester là.
Puis je le pose parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui... On n'est pas en train de faire une campagne de peur. Là. On n'est pas dans le... Non. Parce que les termes qui sont utilisés sont intenses. Les choses que tu nous parles, les effets collatéraux, tout ça, c'est intense. Là. On n'est pas dans l'exagération de la patente. C'est vrai, ça s'en vient, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que moi, quand j'ai entendu dire que c'était un point de non-retour, quand j'entends les affaires de même, on dirait que je trouve que ça envoie un peu le mauvais message de... Ça ne sert plus à rien.
Ça sert à rien.
On va s'en retourner chez nous, il n'y a rien à faire.
Exact. Je trouve que c'est une drôle de stratégie, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour... je parle au day-to-day, là, les affaires simples à faire pour améliorer la patente, là, pour essayer de se donner une chance.
Il y en a plusieurs.
Tout ce qu'on peut faire, le gros du problème, c'est l'utilisation du pétrole, du charbon. Au Québec, du charbon, on n'en utilise pas vraiment. Donc, dans notre cas, c'est le pétrole, le transport, beaucoup. Or, tout ce qu'on peut faire pour modifier nos habitudes de transport, puis là, ça veut pas, tu sais, il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ont des voitures, qui ont besoin de voitures. Je suis en train de dire, laissez votre voiture, oubliez ça, mais est-ce que de temps en temps, vous pouvez... Moi, j'ai un ami qui habitait Terrebonne, qui travaillait à Montréal, il traversait le pont avec sa voiture, arrivé sur l'île, il prenait son vélo, puis là, il faisait le reste de sa ride en vélo. Puis là, le soir, il retournait à son auto avec son vélo. Fait que moitié vélo, moitié auto. Il ne pouvait pas partir de Terrebonne. C'était pas réaliste, là, tous les matins en vélo pour venir jusqu'à Montréal. Fait que de commencer à penser comment on peut modifier
ça. Le covoiturage aussi, évidemment. C'est une voiture de moins.
Facile maintenant aussi.
Et ça devient souvent des vœux pieux aussi. Là,
avec la technologie maintenant, ça devient de plus en plus facile. Il y a plein d'applications. C'est un peu avant un chemin de croix, là, faire du covoiturage. Maintenant, grâce à la technologie, les téléphones, tout ça, c'est de plus en plus facile.
On peut-tu te garder encore une couple de minutes?
Oui,
parfait. On va aller, nous autres, à la circulation, justement. On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le pont Mercier avec notre amie Christine. Hey, merci beaucoup. Je voulais prendre à 8h46 une petite minute et demie avant de laisser partir Stephen Guilbeault pour parler de l'oléoduc qui fourni l'aéroport de Montréal ici. Il y a eu un bris à Laval, tout ça. En tout cas, il semble y avoir eu une inspection au minimum, là, mais peut-être qu'il y avait un bris derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec ce vieil oléoduc qui date de quoi? De 50 ans?
Oui, un peu plus que 50 ans. C'est un oléoduc qui appartient à la compagnie albertaine Transnord. Et nous, on a fait un rapport sur l'état des pipelines au mois de juin, les pipelines au Québec et au Canada aussi, mais particulièrement au Québec. Et ce pipeline-là, c'est une catastrophe qui attend d'arriver. Ils ont eu 79 avis d'infraction dans les 10 dernières années. Opèrent leur pipeline au-delà de la capacité permise. Puis c'est un vieux pipeline.
Fait qu'il faudrait qu'ils changent leur pipeline, finalement.
À tout le moins qu'ils l'entretiennent mieux. Okay. Puis il y a de l'argent à mettre, puis ils veulent pas en mettre. Écoute, l'Office national de l'énergie, il y a des commissaires qui ont dit on devrait pas renouveler la licence de cette entreprise-là parce qu'ils se préoccupent pas de la sécurité et de l'état de leur
pipeline. Je comprends ce que tu veux dire, mais je regardais sur la route, là, on a mis des camions au lieu du pipeline. Là, puis là, il y a plein de camions de pétrole qui se promènent pour aller...
50 à 60 camions. Moi, je dis pas il faut fermer le pipeline, mais je dis si on donne un permis à une compagnie pour opérer un truc comme ça, s'il n'est pas capable de le faire correctement, enlevons-lui le permis, puis on le donne à quelqu'un d'autre qui va le faire correctement.
Mais tout à fait.
Mais non, c'est sûr que fermer le pipeline, c'est pas une solution.
Hey, Stephen Guilbeault d'Équiterre, c'est toujours trop court et toujours passionnant. Je salue ta famille, je te salue toi-même et un gros merci. Toute la gang d'Équiterre de te saluer. Puis là, on mourra pas tout de suite. Là. Hein? On est correct. On va écouter Hubert Lenoir tout de suite au 96.9 C'est quoi, Montréal.